Cinquième partie. Les lunes de Saturne. Chapitre 31. Survie. Le travail est le meilleur remède à n'importe quel choc, et Bowman avait maintenant à faire celui de tous ses compagnons disparus. Aussi rapidement que possible, en commençant par les systèmes vitaux sans lesquels il mourrait ainsi que le vaisseau, il entreprit de remettre Explorateur 1 en état. Une quantité considérable d'oxygène avait été perdue, mais les réserves seraient amplement suffisantes pour un seul homme. La régulation de température et de pression était automatique et Carl était rarement intervenu dans ce domaine. Les ordinateurs terrestres pouvaient se charger des plus importantes opérations en dépit du laps de temps qui séparerait les variations des réactions. Toute avarie, cependant, mettait un certain temps à se manifester et, à moins qu'il ne s'agisse d'un trou important dans la coque, l'alerte serait donnée à temps. Les systèmes de production d'énergie, de contrôle de navigation et de propulsion étaient intacts et, de plus, ces deux derniers n'auraient aucun rôle à jouer avant l'approche de Saturne. La Terre pourrait superviser les opérations. Et si les dernières corrections de mise en orbite seraient complexes par suite des vérifications constantes qu'elles nécessiteraient, le problème ne serait quand même pas trop grave. Pour Bowman, le moment le plus pénible avait été celui de l'ouverture des hibernacles devenus autant de cercueils à l'intérieur de la centrifugeuse. Les morts avaient été de simples collègues et non des amis intimes, et Bowman songeait que c'était une chance. Ils se rendaient compte à présent que l'entraînement qu'ils avaient subi ensemble durant des semaines avait été surtout une sorte de test de compatibilité. Lorsqu'il eut scellé à nouveau les hibernacles, il eut l'impression d'être un violeur de sépultures antiques. Maintenant, Kaminsky, Hunter et Whitehead se dirigeaient vers Saturne à la suite de Poole. Ils arriveraient tous avant lui. Et cette pensée lui procurait une sorte d'étrange et sombre satisfaction. Il ne vérifia pas si le système d'hibernation pouvait encore fonctionner. Bien que sa vie pût en dépendre, c'était là un problème qui pouvait attendre jusqu'à la mise en orbite. D'ici là, bien des choses pouvaient survenir. Il était même possible, bien qu'il n'eût pas encore vérifié les réserves, qu'il pût attendre l'équipage de secours en se rationnant sévèrement. Mais qu'il pût survivre psychologiquement, c'était un autre problème. Il essayait de ne pas penser à des questions aussi lointaines pour se concentrer plutôt sur l'essentiel et l'immédiat. Lentement, il nettoyait le vaisseau, vérifiait le fonctionnement des divers systèmes, discutait des problèmes techniques avec la Terre, dormant un minimum de temps. Dans les semaines qui suivirent, il eut rarement le temps de songer à l'immense mystère vers lequel il filait inexorablement. Jamais, pourtant, celui-ci ne quitta tout à fait son esprit. Le vaisseau finit enfin par reprendre sa routine automatique qui demandait maintenant un contrôle constant et Bowman eut le temps d'étudier les rapports que lui avait adressés la Terre. Il passa et repassa sans cesse l'enregistrement qui avait été fait lorsque AMT-1 avait réagi à l'aube lunaire après 3 millions d'années de nuit. En regardant les hommes en scaphandre rassemblés autour du monolithe, il souriait presque au spectacle de leur panique à l'instant où le signal était lancé vers les étoiles, couvrant la radio de toute sa puissance. Depuis, le grand bloc noir ne s'était plus manifesté. Il avait été recouvert, puis de nouveau exposé au soleil avec beaucoup de précautions, mais sans réagir. On n'avait pas essayé de l'entamer, à la fois par simple prudence scientifique et par crainte d'imprévisibles conséquences. Le champ magnétique qui avait permis de le découvrir avait disparu au moment de l'émission. Certains experts avaient émis l'hypothèse d'un formidable courant qui s'écoulait dans un superconducteur conservant l'énergie au long des âges en prévision de son utilisation. Que le monolithe disposât de quelques sources d'énergie interne, cela semblait certain. La lumière qu'il avait pu absorber durant sa brève exposition au jour ne pouvait être à l'origine de sa puissante émission. Une particularité curieuse du bloc, peut-être sans importance, avait fait l'objet de discussions sans fin. Le monolithe mesurait en effet exactement 3 mètres de haut sur 1,50 m de large et 35 cm d'épaisseur. Lorsque ces dimensions furent chiffrées avec plus de précision, on découvrit que leur rapport restait 1,49, ce qui correspondait au carré des 3 premiers nombres entiers. Nul ne put émettre la moindre hypothèse plausible. Il ne pouvait toutefois s'agir d'un effet du hasard, puisque le rapport subsistait jusqu'aux limites du mesurable. On éprouvait une certaine humilité en songeant que jamais la technique humaine n'aurait pu produire un bloc, de quelque matériau que ce fût, avec une telle précision. Cette perfection géométrique, presque arrogante d'AMT1, était aussi impressionnante que ses autres particularités. Avec un intérêt curieusement détaché, Bowman écouta le contrôle de mission lui présenter de tardives excuses pour lui avoir dissimulé son plan. Ces gens qui parlaient sur Terre semblaient sur leur défensive, et il lui était facile d'imaginer les récriminations qui déjà devaient se développer chez les responsables de l'expédition. Bien sûr, ils avaient quelques bons arguments, en particulier les résultats d'une étude secrète du département de la Défense, intitulée « Projet Barsoum », et qui avait été fait en 1989 par le département de psychologie d'Harvard. Lors de cette étude, divers échantillons de population avaient reçu l'assurance que la race humaine était entrée en contact avec des extraterrestres. Les sujets testés, grâce à l'injection de drogue, à l'hypnose et à certains effets visuels, avaient vraiment eu l'impression de rencontrer des créatures d'autres planètes. Leur réaction était donc authentique. Certaines avaient été violentes. Il semblait que la xénophobie fût profondément ancrée dans l'être humain. Ce qui ne pouvait surprendre personne si l'on considérait les lynchages, pogroms et autres douceurs de l'histoire. Néanmoins, ces résultats avaient vivement troublé les organisateurs qui ne les avaient jamais rendus publics. Les 5 paniques successives provoquées au XXe siècle par une adaptation radiophonique de la Guerre des mondes de Wells ne faisaient que renforcer les conclusions du projet Barsoum. En dépit de ces arguments, Bowman se demandait parfois si le danger de choc culturel était vraiment la seule raison du secret extrême qui entourait la mission. Les rapports contenaient certaines allusions aux avantages possibles que les États-Unis pourraient retirer d'un contact avec une intelligence extraterrestre. Lorsqu'ils contemplaient la Terre, cette minuscule étoile à demi perdue dans le Soleil, de telles considérations semblaient à Bowman d'une incroyable mesquinerie. Bien que le problème eût été définitivement résolu sur le plan pratique, Bowman était plus intéressé par la théorie avancée à propos du comportement de Karl. Nul ne saurait sans doute jamais l'exacte vérité, mais le fait que l'un des Karl 9000 du contrôle de mission eût présenté à son tour les signes d'une psychose similaire laissait à penser que cette théorie était juste. La faute qui avait été commise ne se répéterait pas. Pourtant, le fait que les constructeurs de Karl aient été incapables de comprendre la psychologie de leur propre création montrait à quel point il serait difficile d'établir le contact avec des êtres véritablement étrangers. Bowman pensait, ainsi que le prétendait le docteur Simonson dans sa théorie, qu'un sentiment de culpabilité dû à un conflit de programmation avait conduit Karl à tenter de rompre le lien avec la Terre. Et il se plaisait à penser que Karl n'avait pas vraiment voulu tuer Poole, bien que cela fût difficile à prouver. Il avait simplement tenté de détruire une preuve, car si l'on avait découvert que l'élément AE35 était en parfait état, son mensonge eût été évident. Comme n'importe quel criminel maladroit, il avait été pris de panique. Et la panique était une chose que Bowman pouvait comprendre, bien mieux qu'il ne l'eût souhaité. Deux fois dans son existence, il l'avait connu. La première fois, enfant, il avait été saisi par une lame de fond et à demi noyé. La seconde, astronaute à l'entraînement, une jauge faussée lui avait fait croire un instant que son oxygène serait épuisé avant qu'il soit en lieu sûr. Lors de ces deux occasions, il avait presque perdu le contrôle de sa logique et il avait été bien près de se trouver livré à des impulsions frénétiques. Pourtant, Il avait triomphé par deux fois, mais il savait depuis qu'un homme, dans certaines circonstances, peut abandonner toute humanité lorsqu'il est en proie à la panique. Et cela s'appliquait à Karl tout comme à un homme. Et lorsque Baumann l'eut compris, il éprouva un peu moins d'amertume et de ressentiment à l'égard de l'ordinateur. De toute façon, celui-ci appartenait désormais à un passé que dominait déjà la promesse et la menace d'un avenir inconnu.